Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Une délégation du diocèse d'Annecy attendue à Rome. Elle participera vendredi à la messe d'action de grâce du pape François pour la canonisation du jésuite savoyard Pierre Fabre. Pour la troisième fois depuis son élection, le premier pape jésuite de l'histoire se rendra à l'église romaine du Jésus. Il y a 50 ans, dans la ville de Jérusalem où fut plantée la croix glorieuse du Sauveur, le pape de Rome rencontrait le patriarche de Constantinople pour la première fois depuis le schisme. Paul VI avait voulu ramener les chrétiens vers le centre du monde. Nous évoquerons cet anniversaire dans ce magazine. Au Pakistan, des chrétiens et des musulmans ont défilé côte à côte pour réclamer des mesures de paix et de solidarité. Avocats, responsables religieux, politiques, éducateurs, journalistes et étudiants ont dénoncé la montée et l'impunité de l'extrémisme qui frappe les minorités. Ce vendredi matin, à 9h, en la fête liturgique du Saint-Nom de Jésus, le pape François se rendra à l'église du Jésus à Rome. Il y célébrera une messe d'action de grâce pour la canonisation de Pierre Fabre, le premier compagnon de Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Le 17 décembre dernier, le jour de ses 77 ans, le Saint-Père a étendu à l'église universelle le culte liturgique rendu à ce prêtre jésuite français, ordonnant son inscription au catalogue des saints. Dans l'interview accordée aux revues jésuite en septembre 2013, le pape François saluait en Pierre Fabre un modèle de douceur et de dialogue. Le 17 décembre, il a donc décidé une canonisation équipollente et déclaré Saint Pierre Fabre sans qu'un miracle soit obtenu par son intercession. Une procédure d'exception qu'il utilisait pour la seconde fois après la bienheureuse Angèle de Foligno. Benoît XVI a lui-même canonisé ainsi Hildegarde de Bingen. Ce vendredi matin, Mgr Yves Boivineau, évêque d'Annecy, concélébrera la messe d'action de grâce. Il s'attarde sur le sens de cette célébration et sur la signification de la canonisation de ce prêtre jésuite qui a parcouru l'Europe.
Une célébration pour une canonisation, c'est toujours reconnaître que Pierre Fabre est un exemple, pas simplement pour un diocèse, mais pour l'Église tout entière, et que c'est un don qui nous est fait. Et le fait que le pape François le considère comme un modèle, de dire que c'est sans doute un modèle aussi pour l'ensemble de l'Église aujourd'hui, dans sa tâche d'évangélisation.
Le pape François a d'ailleurs évoqué la figure de Pierre Fabre en soulignant qu'il dialoguait avec tous, en soulignant également sa piété simple et sa douceur. Quelle est l'actualité de son message aujourd'hui?
Pierre Fabre et François de Sales insistaient sur le fait qu'il fallait aimer celui avec qui on dialoguait. Et dans les circonstances de l'époque, c'était aimer les réformés avec qui ils étaient en dialogue. Pierre Fabre était un homme de tempérament, un homme capable de prendre de grandes décisions, mais il y avait une qualité du cœur. Et je pense que notre pape ne dit pas autre chose aujourd'hui, enfin, sur l'importance des qualités de cœur. Il dit bien, n'oubliez pas la tendresse. Mais je crois que c'est tout à fait d'actualité et que aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est un évangile qui parle au cœur.
Qu'est-ce qui caractérise véritablement la mission de Pierre Fabre au service de l'Église?
Pierre Fabre, bon, d'abord, c'est quelqu'un qui avait, comme on disait tout à l'heure, une piété simple, mais qui a été un pèlerin missionnaire, ou un missionnaire pèlerin. Et ce qui est très fort chez lui, c'est l'obéissance. Il reconnaît lui-même que on l'a toujours appelé à se déplacer et qu'il était toujours en marche et il ne voyait pas, on ne lui donnait pas le temps de voir les fruits de son ministère. Et je crois que c'est peut-être un des points aujourd'hui à retenir, c'est-à-dire nous sommes des pèlerins, il s'agit de semer largement, mais de ne pas toujours attendre d'en voir les fruits immédiatement, et même nous semons et d'autres récolteront. Mais je pense qu'il y a chez lui une dépossession de lui-même qui a été progressive d'ailleurs et exemplaire pour tout missionnaire.
La messe d'action de grâce pour la canonisation de Saint Pierre Fabre intervient au premier jour de l'année 2014. Quel est votre souhait pour cette nouvelle année?
Le premier souhait, c'est celui du pape pour la journée de la paix, c'est-à-dire un monde plus fraternel. Et un monde plus fraternel, c'est un monde où on dialogue et où on respecte et on aime celui
L'évêque d'Annecy, Mgr Yves Boivineau, interrogé par Hélène Destombes. Sécularisation, immigration, chômage, des thèmes disparates auxquels a dû faire face la Compagnie de Jésus pendant l'année 2013. La Compagnie de Jésus, un ordre religieux universel, une caractéristique dont les jésuites ne profitent pas assez, regrette le père John Dardis, président de la Conférence européenne. Il nous parle des problématiques qui touchent 5000 jésuites européens. La principale est interne à la Compagnie, se restructurer.
Dans un pays, par exemple, comme la France, c'est une province, mais aussi il y a beaucoup de petites provinces en Europe. Par exemple, Malte, la Slovaquie, la Slovénie, Roumanie, c'est une région maintenant. Mais est-ce qu'on peut nous réorganiser un peu de manière plus efficace, moins bureaucratique et plus légère, mais en gardant les particularités culturelles, la langue et tout ça? Alors ça, c'est un défi, parce qu'il ne faut pas perdre tout ça et devenir un multinational. Par exemple, maintenant en Espagne, ils sont 5 provinces jésuites, avec 1200 jésuites, je pense. Mais ils vont se réunir à la fin du mois de juin. Et ça leur donne beaucoup de possibilités au niveau de planning stratégique, au niveau de perspectives plus larges, tout ça. Parce que quand on perd les perspectives larges, toutes les choses deviennent plus petites et trop petites. On est coincé dans votre propre culture et ne peut pas sortir. Et ça, c'est un désastre pour l'Église et aussi pour la Compagnie de Jésus quand ça arrive. Ce thème de restructuration, c'était le plus important. Et ça concerne l'Europe beaucoup, beaucoup, parce que nous avons des provinces depuis longtemps. Alors ça, c'est un thème très européen maintenant. Et c'est un défi pour moi comme président de la conférence. L'enjeu en Europe, c'est garder les particularités culturelles, mais avancer avec des synergies entre les provinces et peut-être l'intégration des provinces aussi. Est-ce que, par exemple, la province de Slovaquie peut continuer? Est-ce que la province de Hollande peut continuer? Nous avons peu de vocations jésuites. Est-ce que nous pouvons promouvoir un peu mieux les vocations jésuites? Je ne pense pas qu'on peut trouver une solution pour toute l'Europe. L'Europe est trop variée au niveau culturel, au niveau de la foi, mais il faut être créative. Et j'encourage chaque provincial de réfléchir de manière profonde avec ses consulteurs et de trouver des initiatives créatives. Mais à mon avis, trouver Dieu dans la vie, c'est fondamental. Est-ce que je peux aider aux gens de trouver Dieu dans leur vie? Ça, c'est fondamental.
Le père Dardis, président de la Conférence européenne des provinciaux jésuites, interrogé par Antonino Gallofaro. Il y a 50 ans, du 4 au 6 janvier 1964, Paul VI effectuait un pèlerinage historique en Terre Sainte qui allait marquer une étape fondamentale sur le chemin de l'unité des chrétiens. L'accolade émouvante à Jérusalem entre l'évêque de Rome Paul VI et le patriarche de Constantinople Athénagoras restera dans les annales. C'était avant la guerre des Six Jours, dans un contexte politique complètement différent du contexte actuel. Jean-Baptiste Cocagne.
C'est en septembre 1963 que Paul VI manifeste son désir d'entreprendre un voyage en Terre Sainte. Il a été élu 3 mois plus tôt et il va rouvrir une semaine plus tard les travaux conciliaires inaugurés par son prédécesseur Jean XXIII. Un voyage éminemment religieux, précise-t-il, un voyage court, simple, sous le signe de la piété, de la pénitence et de la charité. Les préparatifs se feront dans la plus grande discrétion en raison de la complexe situation politique et religieuse. Paul VI l'annoncera officiellement le 4 décembre devant l'Assemblée conciliaire. Son objectif était de retourner aux sources de la foi chrétienne et de la vie de l'Église, d'offrir son Église au Christ, d'appeler les frères séparés à faire partie d'une seule et sainte Église et de prier pour la paix bien fragile. Ce fut à la fois un acte de dévotion personnelle et un message hautement symbolique adressé au Concile et à l'Église tout entière, qui s'interrogeait à l'époque au sujet de son identité et de sa mission. Paul VI devait effectuer d'autres voyages importants, en Inde et au siège des Nations Unies à New York, mais son pèlerinage en Terre Sainte avait définitivement marqué son pontificat. Une invitation à l'Église à se décentrer d'elle-même et à se recentrer sur le Christ et sur ses origines, à se mettre en chemin vers de nouvelles frontières. C'est dans ce contexte que s'inscrit la signification œcuménique du voyage de Paul VI en Terre Sainte. En rencontrant Athénagoras et d'autres responsables des églises orientales, Paul VI a exprimé la volonté de l'Église catholique de mettre fin à l'hostilité et à l'indifférence du passé pour ouvrir une nouvelle saison de rencontres et de dialogues.
L'actuel patriarche œcuménique de Constantinople se rendra à Athènes le 8 janvier pour la cérémonie d'inauguration de la présidence grecque de l'Union européenne. Bartholoméos Ier a été invité par le premier ministre grec Antonis Samaras. Le 1er janvier à Istanbul, à l'occasion de la réception officielle qui a suivi la divine liturgie patriarcale en l'église Saint-Georges du Fanar, le patriarche Bartholoméos Ier a souhaité le succès à la présidence grecque malgré tous les problèmes existants. Il se rendra à Athènes pour apporter, a-t-il dit, les vœux de l'Église mère pour la présidence hellénique, en espérant que la Grèce, avec ses trésors spirituels, puisse aussi offrir un témoignage de culture orthodoxe. Le patriarcat de Constantinople bénit tous les efforts du peuple grec et de ses dirigeants pour sortir le plus tôt possible de la crise actuelle et la dépasser. Pour l'archevêque de Cantorbéry, la priorité en cette nouvelle année 2014 devrait être donnée à la lutte contre la pauvreté. Justin Welby a exhorté les fidèles à se mobiliser en faveur des indigents au sein de leur quartier. L'archevêque anglican estime que chacun devrait essayer de changer un tant soit peu le monde dans lequel il vit. Citant Nelson Mandela, il souligne que la lutte contre la pauvreté n'est pas un acte de charité, mais un acte de justice. Sur un tout autre plan, Justin Welby a défendu le droit pour l'Église d'Angleterre de s'exprimer sur des questions d'ordre politique. Répondant à des critiques, il précise que c'est en raison de sa foi qu'il prend la parole publiquement sur des sujets d'actualité. Enfin, il se dit fier d'appartenir à l'Église qui est, selon lui, le ciment qui tient unie la société tout entière. En cette période de l'année, personne n'échappe au bilan et aux perspectives. Jasmin Lemieux-Lefebvre est depuis 2009 directeur de communication de l'archidiocèse catholique de Québec. Il fait partie de la génération Jean-Paul II qui a participé au JMJ de Toronto en 2008. Nous lui avons donné la parole.
Pour 2013, au Québec, il y a toute la question de l'euthanasie qui nous a beaucoup marqué. Il y a un projet de loi qui pourrait être voté d'ici la fin de l'année, un projet de loi sur les soins de fin de vie, car oui, ici au Québec, quand on parle d'aide médicale à mourir, qui est un euphémisme pour l'euthanasie, ce serait dans une loi sur les soins. Donc, on montrait de l'aide médicale à mourir comme un soin. Et je suis particulièrement édifié par les nombreux médecins de toute confession, des athées aussi, qui se lèvent présentement pour bien montrer que tuer, ce n'est pas un soin. Quel sera le résultat du vote? On ne sait pas, mais ce que je trouve très bien aussi, c'est que les évêques ont trouvé leur place dans ce débat-là. Il y a une grande marche, une grande manifestation devant l'Assemblée nationale au printemps et qui était organisée par les médecins, entre autres. Et eux, ils étaient dans la foule avec le peuple. Au Québec, il y a quelques années, on serait attendu à les voir sur la tribune, mais ils ont choisi cette journée-là d'être parmi les gens et par la suite, ont eu des paroles très, très fortes pour rappeler que c'est vraiment l'investissement dans les soins palliatifs, accompagner, aimer les mourants, qui est la solution. Donc, c'est sûr que je garde particulièrement l'issue du vote dans mes prières, mais on va continuer de cheminer comme ça.
Et donc, pour terminer, quels sont vos souhaits pour 2014?
Pour 2014, moi, j'aurais trois souhaits. Le premier, c'est au Québec, on a un débat important sur la question de la laïcité, projet de loi là, qui sera discuté au début de l'année 2014. C'est sûr que pour beaucoup de Québécois, il y a une relation difficile avec tout le religieux. Il y a une guérison de la mémoire à avoir. Et j'espère que les gens pourront, avec ce débat, redécouvrir tout le côté de notre patrimoine, notre héritage catholique qui est un élément fondateur positif de ce qui fait le Québec aujourd'hui. Et découvrir que la foi vivante qui anime les chrétiens, les catholiques dans les paroisses, dans les mouvements, dans les communautés religieuses peut faire encore beaucoup de bien à notre société. J'espère aussi que 2014, ce soit l'année qui pourra faire exploser la théologie du corps de Jean-Paul II. Ce sera le 30e anniversaire de la fin des catéchèses de la théologie du corps. On sait que c'est l'année de sa canonisation. Les gens, quand ils la découvrent, tout récemment ici, on a eu une journée de formation pour les couples accompagnateurs, la formation, la préparation au mariage sur la théologie du corps. Les gens le découvrent encore. C'est un message très, très fort. Il y a un institut de formation de la théologie du corps qui sera créé par Yves Semaine. Il y a un livre de Christopher West, Bonne nouvelle, sur le mariage et la sexualité, qui est un best-seller international qui sera finalement traduit en français. Donc j'espère que ce sera une année charnière pour cette belle théologie. En terminant, c'est une année de jubilé pour la cathédrale de Québec, Notre-Dame de Québec, qui célèbre ses 350 ans. Le 8 décembre 2013, c'est l'inauguration de la première porte sainte à l'extérieur de l'Europe, la première en Amérique du Nord, bien sûr. Alors, il y aura des pèlerins de partout. On évalue à 7 à 8 millions de catholiques d'Amérique du Nord qui ont leurs ancêtres de la paroisse Notre-Dame. Donc, imaginez ce torrent de personnes qui voudront redécouvrir leurs racines. Puis pour nous, les catholiques de Québec, tout un honneur de les accueillir.
Jasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications de l'archidiocèse catholique de Québec, interrogé par Audrey Radondi. Aux États-Unis, la Cour suprême a provisoirement autorisé mardi des établissements catholiques à ne pas souscrire une couverture santé pour certaines méthodes contraceptives et notamment l'emploi de la pilule du lendemain. Cette couverture est prévue par la loi de réforme de la santé de Barack Obama, entrée en vigueur mercredi et qui oblige les entreprises à doter leurs salariés d'une assurance maladie sous peine de pénalités financières. Manuela Affigi.
Cette législation phare du premier mandat de Barack Obama avait été adoptée au forceps au Congrès, puis contestée devant plusieurs instances judiciaires. La décision de la Cour suprême de se saisir du dossier avait été applaudie par l'Église catholique et par les organisations pro-vie. Pour elle, et pas seulement, cette loi viole la clause de libre exercice de la religion du premier amendement et contredit la liberté de conscience. Certains employeurs refusent ainsi de financer ce que leur religion condamne. Pour arriver à un compromis, le gouvernement a proposé que les femmes qui travaillent pour des organisations religieuses à but non lucratif opposées à la contraception puissent voir celles-ci financées en dehors de l'assurance santé payée par leur employeur. En revanche, cette exception ne s'appliquerait pas aux employeurs privés, quelles que soient leurs convictions religieuses, ce que certains ont déjà contesté. Deux cas sont actuellement devant la Cour suprême, celui des Petites Sœurs des Pauvres du Colorado et d'autres groupes catholiques auxquels s'applique la décision de mardi, et celui d'une chaîne de magasins, un groupe familial, dont les dirigeants disent vouloir gérer leur activité en accord avec les principes bibliques. Mardi dernier, le nouveau président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis avait adressé une lettre de protestation au président Obama. Le gouvernement américain a jusqu'à vendredi matin pour présenter ses arguments.
Au Pakistan, des milliers de chrétiens et de musulmans ont défilé côte à côte pour la paix et le développement économique du pays. Les participants à la marche de la solidarité 2014 ont demandé notamment un renforcement de la politique étrangère, des réformes structurelles et une amélioration du système éducatif. Les manifestants ont également exprimé leur solidarité avec les victimes de la violence fondamentaliste. Selon le réseau Uni pour la paix qui organisait les manifestations dans tout le pays, la politique étrangère du Pakistan est soumise à la volonté de puissances étrangères, elle est incohérente et dépassée. Il est donc urgent non seulement de l'adapter aux nouvelles dynamiques mondiales, mais aussi de favoriser une coexistence pacifique du Pakistan avec les pays voisins, ainsi que des rapports commerciaux soutenus par des démarches diplomatiques. L'économie pakistanaise est à bout de souffle, la justice nécessite de réformes urgentes, le terrorisme islamiste se répand. Au mois de septembre, une attaque contre une église de Peshawar avait fait une centaine de victimes. Les manifestants ont demandé à l'État de punir sévèrement tous les auteurs d'actions violentes commises au nom de la religion ou des idéologies. Les islamistes somaliens Shebab, liés à Al-Qaïda, ont revendiqué ce jeudi le double attentat qui a fait 11 morts mercredi à Mogadiscio. Ils souhaitaient lancer un avertissement aux étrangers et aux mercenaires locaux qui n'auront jamais de refuge sûr en Somalie. Mogadiscio est fréquemment la cible d'attaques suicides et d'attentats à la voiture piégée organisés par les Shebab qui entendent renverser le gouvernement soutenu par la communauté internationale. Malgré ce début d'année meurtrier, Mgr Giorgio Bertin, évêque de Djibouti et administrateur apostolique de Mogadiscio, Chaud veut garder l'espoir. On l'écoute.
Je continue à espérer que l'être humain soit capable de surmonter toute une série de négativités qu'on a eues en Somalie pendant les derniers 23 ans. Naturellement, il est nécessaire que et la communauté internationale et surtout les Somalis eux-mêmes, surtout dans la partie sud du pays, réalise que la difficulté est là de faire renaître l'État. Mais de l'autre côté, on peut surmonter ces difficultés si on a un esprit un peu plus grand qui évite tout le factionnalisme lié un peu aux intérêts personnels. Le pays a besoin que ses enfants, surtout ceux qui viennent de l'étranger, soient capables de s'engager pour le respect des droits des personnes et le respect aussi des différences qui sont présentes, différences claniques, mais quelquefois aussi différences de point de vue religieux.
Mgr Bertin, administrateur apostolique de Mogadiscio, interrogé par Elisa Sartarelli de la rédaction italienne de Radio Vatican. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.